une heure avant la fin du monde.
$120 millions de tonnes de CO2 en France, 39% des émissions de gaz à effet de serre, 15 120 km de voies cyclables, environ 28 000 km de voies ferrées, 1 100 000 km de routes. En 2017, 941 milliards de voyageurs kilomètres ont été transportés sur le territoire français, 757 milliards en véhicules particuliers, 365 millions de tonnes à l'entrée des ports français et plus de 2 millions à l'entrée des aéroports. Vous l'aurez compris, ce soir, pour cette dernière heure avant la fin du monde, on parle de transport. Et pour éclairer notre lanterne, nous accueillons ce soir Jean-Marc Samuel. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes donc président de la Fédération Agir pour le Fluvial, qui regroupe des acteurs et des promoteurs du fluvial. Et vous êtes aussi chef d'entreprise de la SAS, l'équipage.
C'est cela, oui.
Et donc, merci d'être avec nous pour cette dernière heure avant la fin du monde. Est également présent comme chroniqueur, co-animateur et réalisateur, Florent. Salut.
Salut.
Les amis, il nous reste 57 minutes pour sauver le monde. Donc, tous les jours, nous nous déplaçons pour aller à la fac, au travail, aller faire les courses ou boire un verre, aller voir la famille ou les amis. Nous faisons aussi se déplacer beaucoup d'objets. Hein, lorsqu'on commande quelque chose en ligne pour approvisionner nos magasins, rien que pour avoir de l'énergie, il faut déplacer des matériaux. Ces transports, en fait, se faisaient d'abord à pied, puis à dos d'animal. On a ensuite inventé de nombreux véhicules roulant sur terre ou flottant sur la mer. Mais depuis le 19e siècle et la révolution industrielle, nous assistons à une explosion des moyens de transport. Vélo, auto, moto, camion, train, avion, bateau, hélicoptère, sous-marin, fusée, trottinette électrique et j'en passe. Alors, la question qui se pose, c'est quel impact ont ces transports sur notre environnement? Mais dans cette première partie de l'émission, nous allons d'abord essayer de répondre à cette question. Le transport, on en est où? Alors Jean-Marc, afin de répondre à cette question, je vais vous poser une question toute bête pour commencer. Mais le transport, c'est quoi?
Le transport, comme vous l'avez commencé à le dire, c'est simplement déplacer des objets ou des personnes d'un point A à un point B. Alors le transport, effectivement, comme vous l'avez rappelé au début, c'était à pied. Avec une rado d'hommes, c'était puis on est passé à des véhicules hippomobiles, on est passé, je reviens déjà sur la voie d'eau, on est passé, on va dire, du halage à la main à dos d'hommes avec une corde, on va dire, et puis maintenant on est parti sur des autres moteurs, des autres moyens de propulsion qui aujourd'hui, et comme vous le dites, et c'est un peu le sens de l'émission, commencent à avoir des impacts négatifs sur l'humanité et sur la Terre. Donc c'est un petit peu, si j'ai bien compris, le sujet de votre émission.
Exactement, et on en parlera un peu plus des impacts écologiques sur notre environnement juste après. Et déjà sur la question des transports, parce que c'est assez vague, c'est quoi les différents modes de transport? Comment on peut segmenter le transport en général?
Alors c'est vrai que c'est une question très intéressante parce que comme j'ai commencé à m'intéresser au transport par voie fluviale, c'était surtout évidemment parce que je constatais qu'il y avait des canaux en France, un grand réseau de canaux et il était assez peu utilisé. Donc ça m'est arrivé de très nombreuses reprises de me retrouver dans des réunions pour parler de transport et très rapidement on ne parlait plus que du transport de personnes. Et en fait le transport de marchandises est quelque chose qui a été très souvent occulté. Par exemple, dans les assises de la mobilité auxquelles nous avons participé, on ne parlait pas de transport de marchandises et on ne parlait d'autre part d'un autre sujet qui est très important pour le transport de personnes, c'est qu'on ne parlait pas non plus de ce qu'on appelle les campagnes, on va dire. Là, on est ici au cœur de Paris. Dans les discussions, c'était le vélo, le vélo, le vélo. Mmh. Donc ça, c'était quelque chose qui était impressionnant. Il y avait vraiment une dichotomie entre l'urbain et la campagne. Enfin, j'allais dire les provinces, malheureusement. C'était un vocable qu'il faudrait un petit peu évacuer de notre vocabulaire. Donc effectivement, l'idée aujourd'hui, c'est de revenir un petit peu d'attraper un peu ce sujet à bras le corps, le transport de marchandises. Alors, il est évident, ici, je ne suis pas là pour parler du transport de personnes, puisqu'effectivement, ce n'est pas vraiment mon secteur d'activité, secteur d'activité de notre fédération. Mais il est évident que c'est très important pour des gens comme vous ici à Paris ou dans les grandes villes. C'est un sujet qui est crucial. C'est d'autant plus crucial que, en fait, en termes de déplacement, en termes de dépenses d'énergie et d'impact sur l'environnement au sens large, par l'environnement humain, environnement au sens écologique, c'est quand même le transport de personnes qui représente le plus de consommation d'énergie et donc le plus d'impact sur l'environnement. Donc il ne faut pas le négliger. Mais ceci dit, quand on voit effectivement les files de camions sur les autoroutes, je rappelle que sur la vallée du Rhône, c'est 12 000 camions par jour qui passent. 12 000 camions par jour. En transit, en général, on ne sait pas trop parce qu'on n'arrive pas à savoir exactement d'où viennent les marchandises, où vont-elles. Mais c'est quand même un sujet très important, effectivement.
Non, moi j'avais une petite question, c'est combien il y a de tonnes, alors je sais qu'on parle un peu de tonnes-kilomètres, mais justement combien il y a de ce qui veut dire c'est une tonne qu'on déplace d'un kilomètre, ça si je comprends
voilà,
bien.
C'est... Même question d'ailleurs sur voyageurs-kilomètres que j'ai évoqué au début, mais c'est vrai que c'est un peu flou au final.
Voilà, disons que pour compter ou pour comparer, on ne va pas comparer, mélanger les torchons et les serviettes comme on dit, c'est-à-dire il faut savoir une tonne déplacée sur un kilomètre nécessite combien d'énergie pour être déplacée et elle génère combien d'externalités. Donc on va toujours parler en tonnes kilomètres, comme ça vous allez pouvoir comparer ce que produit comme effet externalité une tonne sur un camion déplacée sur un kilomètre et combien elle a besoin d'énergie pour être déplacée et pareil sur tous les autres modes de transport. Et c'est comme ça déjà on arrive à quantifier un peu, à faire des comparatifs. Donc, ce ne sont pas les seuls, c'en est un, parce que ça, c'est ce qu'on va dire, c'est l'énergie dépensée et les rejets qui sont dus à cette énergie. Alors là, il y a encore un sous-chapitre, c'est avec quel moteur on utilise, comment on propulse ou le camion ou la voiture ou le bateau. Ça, c'est encore une question à poser. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je m'amuse souvent à. Enfin, j'avais des amis qui avaient une péniche qui transportait des enfants. Et le jeu, c'était de dire à un enfant, tiens, prends la corde et tire le bateau. Le gamin il disait, mais c'est pas possible. Et en fait, le petit garçon de 10 ans, la petite fille tirait sur la corde et le bateau se mettait à se déplacer. Parce que tout simplement, c'est un phénomène physique extrêmement simple. Il y a beaucoup moins de frottement dans l'eau que sur Terre. Donc, automatiquement, on a besoin de moins d'énergie pour déplacer la même tonne que sur la route.
Oui. C'est-à-dire que si on essaye de tirer une voiture avec une corde, ça marchera moins.
C'est souvent la voiture qui vous entraîne.
C'est ça.
Merci du coup pour l'éclairage sur cette appellation un peu barbare quoi, qui peut paraître un peu opaque. Et donc on parlait donc de 941 milliards de voyageurs kilomètres et je crois que c'est quelques dizaines de milliards de tonnes kilomètres, si j'ai bien retenu les chiffres, mais j'ai oublié de le noter celui-là.
Oui, ben moi aussi je l'ai noté quelque part, mais ça va. Je suis malheureusement doté d'une assez mauvaise mémoire. Bon, c'est les marchandises, en fait, la quantité de marchandises déplacées. Alors, je suis parti sur un sujet français, effectivement, parce que le fluvial, déjà, n'est pas mondial. Il est européen pour moi. Et puis aujourd'hui, il est surtout français parce qu'il y a une politique fluviale à influer, on va dire à infléchir dans la bonne direction. Aujourd'hui, on pense que le fluvial n'est pas assez mis en valeur. Donc je suis parti sur des chiffres nationaux, on va dire. La marchandise, les transports de marchandises, en fait, on déplace 356 milliards de tonnes kilomètres en 2018. C'est l'ensemble des marchandises déplacées. Sur ces 356 milliards de tonnes, il y en a 317,2 milliards qui ont été déplacés sur la route. Il en reste 6,7 milliards pour le fluvial. Donc, il y a une écrasante majorité sur la route.
Oui. 80%, quelque chose comme ça.
Donc, presque 90%. Presque 90%. Autour de 90% presque. Donc déjà, il y a un déséquilibre. Voilà, il y a un déséquilibre. Donc l'objectif aujourd'hui, et je tiens à le dire maintenant, pour mémoire, on avait travaillé, j'avais participé à la conférence environnementale en 2014 et dans une assemblée, il y avait bien moins de 200 personnes devant un certain nombre de ministres. Certains sont devenus, je crois, il y en a qui est devenu président, je crois. J'étais intervenu en disant, j'ai commencé par dire cette chose un petit peu barbare, j'ai dit merci les camions. Mais effectivement, s'il n'y a pas de camions, on ne pourrait pas fonctionner. Et même le bateau a besoin d'un camion, même les modes doux comme le bateau ou le train ont besoin d'un camion pour l'approche. C'est-à-dire que les trains et les bateaux sont contraints par leur infrastructure on est limité par des rails ou par les berges de l'eau. Donc le problème n'est pas de condamner le camion, le problème est d'attribuer à chaque mode la marchandise qui lui revient, suivant la distance, suivant le poids, suivant... Voilà. Donc, c'est ça, c'est la réflexion elle doit être assez aboutie. Par exemple, vous avez la chance dans Paris, vous avez une ville extraordinaire qui est traversée par une rivière qui fait des S. C'est-à-dire que vous n'êtes jamais loin du fluvial.
Du fluvial, oui.
Aujourd'hui.
Donc, il peut y avoir plusieurs ports qui desservent.
Exactement, très facilement. Vous avez aujourd'hui les travaux dans Paris, c'est 50 000 tonnes à peu près qui sont ou évacuées ou qui rentrent dans Paris par jour. Vous imaginez, c'est l'équivalent de plus de 1600 camions. Donc, vous voyez, là, tout de suite, l'intérêt du fluvial vous saute aux yeux. Vous avez la possibilité de livrer des colis. Bon, vous avez le célèbre magasin Franprix qui a fait toute sa communication autour de cette livraison des petites boutiques Franprix. Alors, je ne me gêne pas pour dire le nom de Franprix. On est dans une radio libre.
Oui.
Voilà. Donc, ce n'est pas pour valoriser particulièrement cette entreprise, mais toutes les. Voilà, c'est quelqu'un qui a compris qu'il y avait un intérêt à venir au centre, au cœur des villes, grâce à la voie d'eau.
D'accord. Donc, on y voit un peu plus clair, effectivement. Donc, au niveau du transport, il y a le transport des personnes et le transport de marchandises, entreprises, etc. Et donc, dans les différents modes, on les a cités un peu comme ça. Il y a le ferroviaire, les trains, etc., l'aérien, le routier, les maritimes, le fluvial. Et on n'a peut-être pas parlé des oléoducs, mais on en parlera juste après. On fait une petite pause musicale et on revient juste après.
Voici le poinçonneur des lilas. Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise qu'on ne regarde pas. Y a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Reader Digest. Et dans ce bouquin, y a écrit que dégasse la coule douce à Miami. Pendant ce temps que je fais le zouave au fond de la cave, paraît qu'il y a pas de sous-métier, moi je fais des trous dans les billets. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, pour invalide changé opéra. Je vis au cœur de la planète, j'ai dans la tête un carnaval de confettis, j'en ramène jusque dans mon lit. Et sous mon ciel de faïence, je ne vois briller que les correspondances. Parfois je rêve, je dis vague, je vois des vagues. Et dans la brume au bout du quai, je vois un bateau qui vient me chercher. Pour me sortir de ce trou, je fais des trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Mais le bateau se taille, et je vois que je déraille. Et je reste dans mon trou à faire des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, arts et métiers directs par le Valois. J'en ai marre, j'en ai ma claque de ce cloaque. Je voudrais jouer la fille de l'air, laisser ma casquette au vestiaire. Un jour viendra, j'en suis sûr, où je pourrais m'évader dans la nature. Je partirai sur la grande route, écoute que coûte. Et si pour moi il est plus temps, je partirai les pieds devant. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Y'a de quoi devenir dingue, de quoi prendre un flingue. Se faire un trou, un petit trou, un dernier petit trou. Un petit trou, un petit trou, un dernier petit trou. Et on me mettra dans un grand trou et je t'entendrai plus parler de trous. Plus jamais de trous, de petits trous, de petits trous, de petits trous.
C'était Serge Gainsbourg qui nous parlait en chanson des transports en commun dans Le Poinçonneur des Lilas. Vous êtes sur Radio Campus Paris, nous parlons ce soir des transports avec Jean-Marc Samuel. Il nous reste 45 minutes pour sauver le monde. Alors c'est vrai que donc dans cette chanson, on parle des transports en commun, du métro, et c'est vrai que pour des franciliens comme la plupart de nos auditeurs, et en tout cas comme moi, c'est ce qui nous paraît le plus parlant quand on parle de transport, mais on le citait juste avant la pause. La question des oléoducs, c'est vrai que c'est une question qui n'est jamais posée en fait, mais c'est un moyen de transporter du matériel, enfin pas du matériel, des fluides, mais qui en fait est massif.
Ben oui, effectivement, on ne le voit pas, on ne l'entend pas, on ne le sent pas. Là, par exemple, en l'occurrence, ça ne produit pas beaucoup d'externalités. Si je me souviens bien, on transportait peut-être au passé, parce que apparemment, c'est un petit peu en baisse, mais les oléoducs transportent plus en volume que le fluvial.
D'accord.
C'est, en totalité, c'est impressionnant. Quoi, ouais. C'est impressionnant quand même.
Oui, et du coup, c'est le gaz, le pétrole, l'eau, voilà, tout ouais. ça, quoi. D'accord. Et donc, du coup, maintenant, après avoir fait un peu ce constat et du coup, maintenant qu'on voit un petit peu ce que c'est le secteur du transport, on va un peu se pencher sur les impacts écologiques de ce secteur. Et donc, je propose qu'on balaye un peu les différents impacts écologiques de ces transports. Alors déjà, on voit quand même souvent, on en parle beaucoup, il y a la pollution atmosphérique et la pollution de l'air en général. Hein, que ce soit les autos, les avions, les bateaux, les trains, cette pollution, elle est présente. Mais on parle de quoi exactement ?
Aujourd'hui, les modes de propulsion le plus courant, c'est qui est dérivé du pétrole. C'est quand on utilise du pétrole et qu'on le fait brûler, exploser. Et tout ça, c'est tous ces résidus qui partent dans l'air. Donc effectivement, il y a eu un énorme travail qui a été fait au niveau du routier, puisqu'on revient sur le routier, où on a mis une norme Euro 6, qui est diminué extrême, qui a eu pour conséquence une très forte diminution des émissions de gaz à effet de serre et surtout de particules. Ce sont les particules qui aujourd'hui posent un petit peu problème dans les moteurs fluviaux, parce que les moteurs fluviaux sont des moteurs qui ont une durée de vie extrêmement longue. C'est-à-dire un moteur d'un bateau, ça peut durer 20 ans. Et les bateaux eux-mêmes ont une très grande longévité. Et les bateaux, c'est 60 ans. Alors quelque part, on est sur un paradoxe, c'est qu'on a sur un matériel enfin, de transport qui dure extrêmement longtemps, qui a une durée de vie extrêmement longue, donc on pourrait dire que c'est écologique, puisque justement on parle de l'obsolescence, oui, ça. De l'entretien.
Par reproduire un moteur.
Moi, j'ai deux bateaux, un qui est de 1924, l'autre de 1934. Et les derniers bateaux construits en France, ils datent des années 50, 60, ils tournent toujours. Donc le matériel est amorti, on change quand le fond est usé, on le change et on repart quand le moteur est pareil. Donc tout ça, on a cette notion de longévité qui est quand même assez intéressante. Par contre, effectivement, quand on parle d'externalité, encore une fois, on va toujours calculer à la tonne kilomètre. Pour une tonne transportée pour un kilomètre, combien on va consommer de carburant et combien on va émettre. Et effectivement, j'ai un collègue qui navigue justement sur la Seine. Il a fait des calculs parce qu'aujourd'hui, c'est obligatoire de déclarer le bilan carbone de ces transports de marchandises. Et il a fait son bilan au réel, parce qu'il y a plusieurs modes de calcul. Il le fait au réel. C'est pratiquement 5 fois moins d'émissions de CO2 à la tonne kilomètre qu'un camion. Donc c'est quand même extrêmement intéressant. Après, c'est très difficile d'avoir des chiffres précis parce qu'on ne peut pas comparer un bateau qui fait Amsterdam 7 avec 230 tonnes de marchandises dans la cale, avec des canaux où il avance lentement, où il produit très peu d'émissions, mais il consomme beaucoup. Pas beaucoup non plus, mais il met plus de temps. Il ne faut pas le comparer, mettre sur le même plan qu'un bateau de 3 000 ou 4 000 tonnes qui navigue sur les fleuves. Donc lui, si vous divisez à la tonne kilomètre, effectivement, le bateau de 4 000 tonnes, il va consommer jusqu'à 7 fois moins que le camion. Par contre, un bateau sur 230 tonnes qui traverse la France, l'Europe, j'ai beaucoup d'amis qui font des amis hollandais ou belges qui descendent jusqu'à 7, ce sera plutôt 2,5 fois moins de consommation, entre 2 fois, 2,5 fois moins de consommation. Donc, qui dit moins de consommation, dit moins d'émissions, moins d'impact sur l'environnement. Après, ça c'est le côté purement, on va dire, pollution, voilà, détérioration de l'environnement.
Et puis, c'est dans tous les cas, de ce que vous dites, c'est qu'il y a un impact de toute façon beaucoup moins grand que sur tous les autres modes de transport routiers et ferroviaires qui, eux, vont relâcher beaucoup plus de gaz à effet de serre et donc contribuer, je crois que c'est un des premiers facteurs qui contribue au réchauffement climatique.
Tout à fait, le secteur de transport, c'est 33% à peu près, alors le chiffre varie 1 ou 2%, 33% des émissions de gaz à effet de serre. Donc le transport, y compris personne, n'est pas
marchandises.
Et marchandises.
Ouais. Les deux. Ouais.
Voilà. Mais donc le transport, les chiffres sont un peu difficiles à trouver, c'est autour de 12-13% le marchandise, 17 peut-être, un peu moins que le transport de marchandises que les transports de personnes. Donc c'est vrai que là, effectivement, l'objectif, on en parlera après, ce sera d'améliorer la situation.
Oui.
On en reparlera un petit peu après. Mais il y a aussi d'autres avantages qui sont quand même énormes. Franchement, il faut vraiment y penser. C'est que vous n'avez aucune détérioration de l'infrastructure de transport. C'est que vous n'abîmez pas l'infrastructure de transport en naviguant, tandis qu'un camion et les automobiles, elles détériorent l'infrastructure.
Alors ça justement, c'est une question que je voulais poser juste après, mais ça tombe bien. C'est donc un des impacts aussi sur l'environnement du transport en général, c'est la consommation d'espace. C'est-à-dire qu'on va construire des infrastructures, des ports, des gares, des aéroports, mais aussi des rails, des routes, des autoroutes, des parkings, etc. Et cet espace, il pourrait éventuellement être utilisé à autre chose.
Dans le cas du fluvial, on construit aussi des canaux, j'imagine, et des ports.
Tout à fait. Alors, c'est un vrai sujet, parce que j'avais eu une discussion avec une écologiste du Havre qui se combattait la construction de ce qu'on appelle la châtière au port du Havre. La châtière, c'est une digue dans la mer qui permet de protéger l'arrivée des bateaux fluviaux pour ne pas aller en mer, pour aller directement dans le port. Parce que le port a été mal conçu, le port maritime a été mal conçu, donc les bateaux fluviaux ne peuvent pas y aller. Donc ça veut dire que si une marchandise arrive par la mer et est déchargée sur le quai, il faut la reprendre
en routier ou en ferroviaire.
Donc ça fait des manutentions, ça fait du coût et de la complication. Donc grâce à une digue, on va pouvoir aller directement sur la mer. Alors effectivement, la question se pose, on va faire une digue au fond de la mer, on va effectivement détruire un écosystème. Ça va avoir un impact. La question est de savoir si on en reste là ou si on regarde un peu plus loin. On va détruire un écosystème, mais il va s'en reconstruire un autre écosystème à terme. De toute façon, j'ai d'autres digues, il y en a eu faites de partout. Ça, c'est une première. Deuxièmement, si vous ne faites pas cette digue et si vous continuez à mettre des trains de camions sur la route entre Le Havre et Paris, est-ce qu'il y en a un gain environnemental? Je ne pense pas. Je pense qu'il faut quand même faire les équilibres. Il y a toujours les colonnes.
À trouver
malheureusement, une infrastructure, c'est toujours un traumatisme. Réaliser une infrastructure, c'est un traumatisme. Quand vous avez votre jardin, votre potager en bas, puis qu'on vous met une autoroute ou une voie ferroviaire, c'est l'intérêt collectif. Enfin, on l'espère, c'est l'intérêt collectif. En tout cas, c'est un usage collectif. Mais par contre, la personne qui est là, avec sa maison, un peu comme tous les gens qui sont le long de la voie ferrée quand j'arrive sur Paris. Mais par contre, il y a un équilibre à trouver entre l'intérêt particulier et l'intérêt collectif. Voilà. En tout cas, en termes d'externalité, le bateau, lui, il ne fait pas de bruit.
Oui, c'est ça. C'était la dernière des questions, justement, sur les impacts. Mais il y a la question de la pollution sonore. On en parle énormément. Récemment, il y a eu une étude, un rapport de Bruit Parif qui a estimé en fait que les conséquences des nuisances sonores, c'est qu'il y avait 3 ans de vie en bonne santé en moins dans certaines zones d'Île-de-France qui étaient particulièrement touchées par le bruit, notamment dans le cône des nuisances des aéroports, mais aussi des nuisances des routes et puis du ferroviaire. Du coup, ça, c'est un gros impact de pas mal de modes de transport, mais qui est moins valable, effectivement, sur la question du fluvial.
Bah, écoutez, je pense que les bateaux, même on les voit presque pas tellement ils font pas de bruit. Enfin, on s'aperçoit même pas qu'ils existent. Ou quelquefois, quand on a le regard qui se pose dessus, on dit comme qu'est-ce qu'il est beau ce bateau, comme il va bien, etc. Voilà, plutôt une image extrêmement positive d'un bateau.
Quelque chose de reposant, oui.
Ça représente. Et puis, alors juste après, je pense que la population, chacun commence à comprendre que effectivement, chaque tonne qui est dans ce bateau, c'est une tonne qui économise des CO2, qui économise de la congestion, qui donne donc moins d'impact sur sa propre vie. C'est-à-dire il y aura moins de nuisances par une surfréquentation par les moyens routiers.
Eh ben, du coup, merci pour tout ça. C'est vrai que c'est pas très réjouissant, hein. Pollution sonore, pollution de l'air. On a peut-être besoin d'une petite pause musicale et on se retrouve dans quelques minutes pour parler un peu des alternatives qu'on peut trouver à tout ça.
Aujourd'hui, j'ai signé au revoir la grande. Je me suis engagé dans la marine marchande. Je quitte mon trou à rang pour une coupe de 100 piastres. Qu'est-ce qu'un gars ferait pas pour Peter voir la face?
Oh mon prince charmant, t'as jamais travaillé. Puis t'es le pire fenêtre que la terre a engendré. Si c'est vrai que tu t'en, je m'installe sur le rivage pour te voir mon gros bras t'éloigner vers le
t'es saoul, pis comme t'es toujours saoul, ben t'es tout le temps méchant, c'est comme des portes tournantes. Alors oui, j'ai signé pour plus t'avoir la grande, je me suis engagé dans la marine marchande. Oh, à boire, car j'ai la gorge en feu, à boire pour les couples malheureux, à boire un dernier coup la grande, je me suis engagé dans la marine marchande, oui, je me suis engagé.
Bien, c'était Marine Marchande des Cowboys Fringants et ça donne la pêche. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris. Ce soir, nous parlons des transports de personnes, mais surtout de marchandises. Et l'horloge tourne, il nous reste 30 minutes pour sauver le monde. Alors, vu que la chanson en parlait, la marine marchande, mais du coup, on parle du maritime. Mais alors, le maritime, le fluvial, c'est quoi la différence? Souvent, c'est mêlé.
Oui, souvent, on prend les, même au niveau statistique, on mélange la marine et le transport maritime et le transport fluvial, mais en fait, ça n'a rien à voir. Si ça a quelque chose à voir, c'est que dans les ports, on se rencontre. Les marchandises qui arrivent par la mer sont déchargées dans les ports, et comme les ports sont souvent dans les estuaires, bah, ce sont des bateaux fluviaux qui les récupèrent et qui les amènent à l'intérieur des terres, dans l'interland, comme on dit. Donc, développer le transport fluvial, ça consiste principalement à aller chercher la marchandise dans les ports et piquer des parts de marché aux camions et aux ferroviaires. Je souris un peu, ce n'est pas vraiment ça. Mais enfin, encore une fois, il s'agit d'un partage. Il n'y a pas un mauvais mode. Tous les modes sont valables dans le moment qu'ils sont appliqués de la meilleure manière. Faut savoir que la Seine, sur la Seine, on concentre à peu près la moitié du transport de marchandises national. Rien que sur la Seine. Et je le disais aussi, je discutais justement pour prendre quelques renseignements par rapport à ce qui se passe en ce moment sur Paris, le Grand Paris. Ça, c'est, on va dire, l'extraordinaire. Mais l'ordinaire, c'est qu'il y a toujours des travaux dans Paris. Vous démolissez, vous reconstruisez. Et en fait, grosso modo, il y a à peu près 1 million de tonnes de matériaux, de granulats qui rentrent tous les ans dans Paris. Et avec les travaux de Grand Paris, à la louche, c'est 50 000 tonnes par jour. Qui s'en vont ou qui arrivent par la voie d'eau, ce qui équivaut à peu près 1600 camions. Donc vous voyez, on enlève ça, ça fait du mal. Alors après, c'est pas complètement. Enfin, il y a une certaine logique. Les villes se sont construites au bord de l'eau parce que il y avait le transport fluvial. Ça a toujours été une voie de communication et une infrastructure fluviale, une infrastructure de transport, pardon.
Je me demandais, quand on me parle de la moitié du transport, enfin presque la moitié du transport fluvial qui passe sur la Seine, je me posais deux questions. La première, quand on parle de la Seine, c'est le Havre ou en Paris, ou c'est au-delà, y compris en remontant un peu plus, ou est-ce que c'est limité
C'est en remontant aussi un peu plus, mais il y a des ports comme le port de Gennevilliers qui concentrent une grande activité. Mais même intramuros, le long de la Seine, il y a une vingtaine de centrales à béton, par exemple. Je sais qu'actuellement, il y a une levée de boucliers contre l'agrandissement d'une centrale à béton. Je comprends l'inquiétude, je comprends. Moi-même, je préférerais peut-être ne pas avoir de centrale à béton devant chez moi, mais si on enlève la centrale à béton en bord à voie d'eau et qu'on fait cette centrale à béton, on ne pourra pas la faire dans Paris de toute façon. Donc, ça veut dire qu'on va rentrer avec encore plus de toupies à l'intérieur de la ville. Donc, il faut se poser des questions comme ça un peu sérieuses. On a de toute façon besoin de béton, on a de toute façon besoin de granulats. Ah, c'est vrai que ce n'est pas joli, ce n'est pas propre. C'est moins joli que la petite promenade au bord de l'eau et que que la gondola Venise, effectivement. Mais soyons sérieux, c'est comme ça. On a besoin de construire, on a besoin de déplacer des matériaux. Il y a de l'industriel. Ça fait partie de notre monde. Il ne faut pas l'évacuer.
C'est toutes ces zones qu'on voit, notamment à côté du quai d'Ivry, etc., où il y a justement des centrales à béton, des endroits où j'imagine... en tout cas, il y a des marques de béton qui s'affichent le long des quais de Seine.
C'est la réalité de la vie, de la société. Il faut construire, il faut... Voilà, moi, je suis le premier écologiste à me poser des questions, mais quelque part, on est obligé de se rendre à l'évidence. On ne peut pas... Il n'y a pas d'autre solution. Il y a aujourd'hui, alors réduire effectivement, contrôler effectivement, produire du béton décarboné, comme on dit, changer les modes de production, améliorer les modes de production, économiser l'énergie. Effectivement, il faut faire ça. Mais quoi qu'il arrive, on continuera à construire. Et quand on a des mégapoles comme Paris ou des métropoles comme Toulouse, ben, il y a un moment, il faut se poser la question des transports en commun. Donc, transport en commun, ça veut dire effectivement aussi créer de nouvelles infrastructures. Donc, ça veut dire faire travailler le BTP, faire travailler les... Il n'y a pas que du négatif là-dedans. Je n'ai pas trouvé d'alternative. Alors, effectivement, il faut avoir un comportement certainement peut-être plus citoyen, une réflexion plus globale, une réflexion plus commune. Moi, en ce qui concerne, par exemple, le fluvial, je trouverais important qu'on réunisse les acteurs du fluvial, les citoyens ou les collectivités et le gestionnaire de la voie d'eau qui faire une discussion, une construction commune de l'avenir de la voie d'eau, par exemple, et pourquoi pas en intégrant, évidemment, en ce qui concerne le transport, mais la réflexion, elle doit être... le débat public est là. Après, il faut que le débat public ait lieu et ensuite, il faut qu'on en tienne compte. Après, le débat public, il y a aussi des petits bémols. C'est qui connaît le fonctionnement d'un bateau, la vie à l'interne du bateau.
Mais ça reste assez flou.
C'est quand même quelque chose. Voilà,
quelqu'un d'extérieur.
Ça reste quand même un petit peu aussi souvent un débat de spécialistes, mais il faut le comprendre aussi. Alors,
quand on parle de voie d'eau, je me demandais, et justement, ça a un lien avec ce qu'on peut transporter. Est-ce qu'on a des voies d'eau navigables partout en France ? Je crois avoir vu sur une carte que tout l'Ouest quasiment n'était pas accessible.
Alors, à l'ouest, il y a quand même les canaux bretons. C'était magnifique. C'est des petits canaux, mais qui n'ont jamais été reliés au reste du réseau navigable. C'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle des bassins fermés, par exemple, comme le Rhône. Enfin, il n'est pas fermé parce qu'en fait, il est fermé pour les gros bateaux, des bateaux qui transportent beaucoup de marchandises, donc ils ne peuvent pas monter au-dessus de quelques kilomètres au nord de Chalon-sur-Saône. Mais par contre, c'est un réseau qui est connecté, puisque comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il y a sans arrêt toute l'année des gens qui font 7 à Amsterdam. Il y a aussi un trafic qui est très intéressant, assez anecdotique, c'est le riz de Camargue qui monte en péniche jusqu'à Valenciennes. Il est chargé à Beaucaire et qui monte à Valenciennes. Donc vous avez une cargaison de 230 tonnes de riz, comme le même que vous avez dans les petits paquets dans votre magasin.
Et qui passe par où alors,
donc il remonte le Rhône, ensuite il remonte la Saône, et après il y a un certain nombre de canaux qu'il peut emprunter. Il y a le canal de Champagne-Bourgogne qui vous amène sur Paris, il y a le canal des Vosges, il y a le canal pour le Nord, c'est le canal du Nord. Vous avez plusieurs canaux qui vous permettent de vous amener à... Vous pouvez aller jusqu'à Nancy, vous pouvez aller jusqu'à Strasbourg, reprendre le Rhin. Vous pouvez aller dans toute l'Europe.
Dans l'Est et le Nord, et après reconnecter avec tout ce qui est Hollande, Luxembourg, Belgique.
Tout à fait.
Mais du coup, c'est vrai que sur la question de l'Ouest, il y a des petits canaux, vous disiez, mais qui sont au final utilisés pas forcément pour de la marchandise, si.
Voilà, grosso modo, on dit qu'il y a un cinquième du territoire qui est irrigué par la voie d'eau, à peu près.
Et dans le sud-ouest, c'est le canal du Midi.
Voilà, quand je dis, je pense que c'est pas un cinquième, je pense que je me suis trompé, c'est plus que ça. Alors, vous partez de Bordeaux, vous allez jusqu'à Toulouse, de Toulouse, vous allez jusqu'à Sète, de Sète, vous allez jusqu'à Marseille. À l'époque, on pouvait aller jusque dans le port de Marseille avec le tunnel de Roves qui s'est écroulé. Ensuite, vous remontez l'axe Saône-Rhône. Et ensuite, vous remontez jusqu'à Paris, jusque dans le nord. Alors, de la Seine, vous pouvez descendre sur la mer, vous pouvez aller à Dunkerque, vous allez en Belgique, vous allez aux Pays-Bas. Après, vous allez jusqu'en Allemagne, jusqu'à Berlin. Et vous pouvez aller jusqu'à... Après, vous pouvez prendre aussi le Danube, aller jusqu'au bout du Danube, jusqu'à...
Danemark,
tous ces pays-là. Voilà, tout ça, c'est tout irrigué. Alors, l'Europe du Nord, le quart nord-est de la France est évidemment bien plus irrigué que le reste de la France, ça c'est clair.
D'accord.
C'est dû à une histoire industrielle.
Et du coup, on le disait au début, donc votre fédération, Agir pour le fluvial, qu'est-ce qu'elle fait précisément ?
La fédération, l'origine de la fédération, en fait, c'est que j'étais en fait administrateur de la Chambre nationale de la batellerie artisanale qui représentait les artisans bateliers, c'est-à-dire les entreprises de moins de 11 salariés. Et au sein de cette chambre, et en rencontrant d'autres personnes, on se dit qu'il faut qu'on décloisonne un peu, qu'on sorte du seul transport de marchandises. C'était l'idée que la voie d'eau, justement, c'est un sujet complètement transversal. C'est que vous avez la voie d'eau, donc ça peut être pour transporter de la marchandise. Quand c'est artificiel, ça a été créé pour ça. Quand c'est une rivière, c'est qu'elle a été aménagée pour ça, pour transporter de la marchandise. Et puis après, vous avez aussi toute la plaisance, les bateaux de plaisance qui naviguent partout en Europe. Vous avez aussi des opérateurs de tourisme. Vous avez en France, à Paris, c'est l'endroit au monde où il y a le plus de transports de tourisme au monde. Je crois que c'est 8 millions de passagers par an. C'est énorme. Donc il y a toute une économie autour de la voie d'eau. Et l'intérêt est d'arriver à partager tous nos savoirs et surtout à monter au créneau ensemble pour avoir plus de visibilité. Bah, comme c'est un petit secteur qui regroupe très peu de personnes, on manque de visibilité. Ce qui fait que quand on arrive dans les politiques publiques, on arrive un petit peu tout à fait en bas de la page. Et quelquefois, on nous oublie un petit peu. Et alors que les budgets pour l'entretien de la voie d'eau, les sommes qui sont mises en jeu sont complètement ridicules par rapport à un rond-point. Le contournement de Besançon, je crois que c'était 2 millions d'euros. C'était 200 millions d'euros, je crois. Et il nous manque 100 millions par an pour que les voies d'eau soient parfaitement, qu'elles reprennent un petit peu de dessus.
Le contournement, du coup, en termes de route,
quelques kilomètres d'autoroute. C'est quelques kilomètres d'autoroute qui correspondent au budget de ce qui nous manque pour le budget, pour que le budget soit confortable pour entretenir la voie d'eau.
Et d'ailleurs, les voies d'eau, c'est qui les entretient, c'est...
Alors, les voies d'eau, sur les 8500 km de voies d'eau navigables, il y en a 6700 qui sont gérées par l'établissement public Voies Navigables de France.
D'accord.
Un établissement public qui est financé par l'argent public en général.
Probablement par des taxes qui sont payées par les entreprises qui sont utilisent ces voies d'eau.
Alors, ce qu'on appelle les fonds propres, c'est-à-dire l'argent qui est généré par l'activité sur la voie d'eau, représente autour de 10% entre 10 et 12% du budget global de l'établissement. C'est-à-dire que la voie d'eau, ça se rapproche un peu du service public. C'est-à-dire que c'est pas l'activité qui est générée par la voie d'eau qui va payer l'entretien de la voie d'eau. C'est l'impact autour, dans les territoires, c'est l'impact autour de l'activité qui va pouvoir permettre de justifier l'entretien des canaux. Mmh. C'est pour ça qu'il faut redévelopper, redynamiser l'activité sur la voie d'eau, sur tous les modes, c'est-à-dire sur le mode touristique, sur le mode transport. Alors le mode transport devient complètement prioritaire, puisqu'on ne parle que de ça. On revient encore sur le sens, l'origine de cette émission. Mmh. On a besoin de trouver des solutions pour décongestionner les routes et pour avoir moins d'impact sur l'environnement et sur la société.
C'est ce qu'on appelle le report modal, souvent en général. C'est créer des alternatives au transport routier qui est le plus polluant, en gros.
Voilà, on va dire, alors polluant, mais comme je dis, les externalités.
Toutes
les conséquences d'un transport de marchandises. Sur la voie d'eau, on pourrait revenir à ce qui était dans les années 70, on transportait 4 fois plus de marchandises sur la voie d'eau. Ce qui me fait dire que sur le réseau qui existe toujours, à quelque chose près, on pourrait multiplier par 3 ou 4 le volume de marchandises transportées par la voie d'eau, avec des voies d'eau entretenues, la possibilité pour les plaisanciers de naviguer, parce qu'ils savent très bien que quand un bateau n'est plus fréquenté par le transport de marchandises, au bout d'un moment, il s'envase, puis au bout d'un moment, y a de moins en moins de gens qui naviguent, puis au bout d'un moment, le gestionnaire de la voie d'eau, il dit, bon, faut qu'on fasse des économies, on va réduire l'amplitude d'ouverture, on va fermer le canal, puis finalement, à la fin, on ferme le canal. Donc il y a un intérêt qui est multiple aussi au niveau des territoires. Vous traversez tous les territoires, il y a un éclusier, il y a des gens qui entretiennent, il y a des bateaux qui passent, il y a de la vie dans les territoires. Et ça, c'est important aussi. C'est quand même un secteur, c'est une infrastructure et un secteur de le fluvial à vraiment encourager et soutenir dans son développement.
Oui, une autre question. Est-ce qu'on peut aller aussi vite qu'avec un camion, par exemple, aussi vite qu'avec le train, avec un bateau? Ou est-ce que je pense que c'est aussi un des enjeux quand on parle de transport.
Alors, la vitesse, l'important, c'est d'abord que la marchandise arrive à temps. C'est-à-dire qu'il suffit de savoir si j'en ai besoin le 12 septembre, il faut qu'elle arrive le 12 septembre. Moi, ça ne m'intéresse pas si elle est partie hier ou si elle est partie il y a 3 semaines. L'important, c'est qu'elle arrive quand j'en ai besoin. Alors, c'est bien vrai sûr. Que le transport fluvial a souffert d'une évolution de la logistique qui fait qu'on on a travaillé sur le flux tendu le zéro stock. Donc ça, ce sont des éléments qui sont défavorables au fluvial. On en a vu les conséquences aujourd'hui. On en voit les conséquences. On en parle beaucoup aussi des conséquences de l'e-commerce. Effectivement, c'est...
Veille du Black Friday, oui, effectivement.
on en est conscient sur la ville de Paris. Dans toutes les, ça induit une congestion des rues qui est infernale. Donc, effectivement, on va vers une certaine facilité, mais ça, on le paye. On le paye en bout. Voilà. Il y a des marchandises qui n'ont pas besoin non plus d'arriver. Quand on transporte des engrais ou du riz, comme je vous dis, le client, il attend à telle date. Et on arrive à telle date et le fluvial est fiable. Sauf s'il y a un problème technique important au niveau d'une écluse qui tombe en panne ou s'il y a une crue sur le Rhône, ça peut arriver aussi. C'est vrai qu'on est quand même aussi tributaire quelquefois de la météo, de l'environnement. Mais le fluvial est quand même réputé pour être tout à fait fiable. Donc il y a énormément de choses à développer, à regarder de plus près, un peu finement. Je pense qu'il faut déjà faire. Il y a des endroits où on ne sait même pas qu'est-ce qui se dans l'axe rhodanien. On ne sait pas vraiment qu'est-ce qui traverse l'axe rhodanien. On ne sait pas d'où viennent les marchandises, où elles vont. Donc il y a un gros travail d'inventaire à faire. Et à chaque marchandise, à chaque flux identifié, se demander. Bon, et là aujourd'hui, on va être sûr, à presque sûr qu'il est sur le camion. Donc il faut se poser la question. Et est-ce qu'on ne pourrait pas le remettre sur la voie d'eau ou est-ce qu'on ne pourrait pas le remettre sur le ferroviaire? Parce que moi, je les mets sur le même plan les deux, hein, en termes de mode doux. Pas en termes de volume, pas en termes de gestion. Il y a d'autres paramètres très différents. Mais les deux modes sont à favoriser, c'est clair.
Et du coup, vous parliez, une dernière petite question dans cette partie. On parlait tout au début quand je vous présentais. Donc, vous êtes chef d'entreprise d'une société qui s'appelle L'Équipage. En quelques mots, c'est quoi aussi? C'est redynamiser les canaux.
C'est un petit peu un pari. Nous avons créé la SAS L'Équipage en 2012, et qui était la succession d'une autre entreprise de transport qu'on avait créée. L'idée, c'était de créer une structure dans un secteur, on va dire, sinistré, le secteur sud-ouest, où il n'y a plus de transport depuis 1989. On se proposait de relancer le transport dans cet endroit-là. Donc, effectivement, une fois qu'on a créé cette société, bon, on a fait quelques petits transports, mais surtout, ce qu'on appelait transport, c'est surtout la location du bateau. Parce qu'effectivement, l'infrastructure étant là, mais par contre, on avait totalement oublié qu'on pouvait transporter par la voie d'eau, et donc il n'y avait plus de quais, plus de moyens de chargement, et les entreprises, toute la logistique n'était pas favorable au retour du transport. J'ai quand même eu l'occasion de transporter grâce à un affréteur qui est très intéressé par ce secteur, qui travaille sur le colis lourd. Ce qu'on appelle le transport exceptionnel sur la route, et c'est très compliqué à organiser. Sur la flux assez ordinaire, j'ai transporté un transformateur de 100 tonnes entre Lyon et Port-la-Nouvelle, par exemple. C'était un événement intéressant. Et aujourd'hui, on travaille sur d'autres trafics qui sont en prévision de travaux sur la ville de Toulouse et aussi en direction de Bordeaux. C'est quelque chose qui commence à remonter. Donc, on était quelque part un peu des précurseurs. On a tendance à dire quelquefois que je suis le dernier transporteur du canal du Midi. Je suis le premier. On essaie de réouvrir une voie, on va dire.
D'accord.
Ouais. Réouvrir une voie, et jusqu'à ce que, justement, avec la société, là, on a beaucoup travaillé justement sur les motorisations des bateaux. Il y avait des contraintes techniques qui sont arrivées de l'Europe, des normes qui ont posé des problèmes. Donc aujourd'hui, on est sur un projet de construction de bateaux à propulsion hydrogène avec une pile à combustible. D'accord. Donc ça permettra, du coup, d'avoir du zéro carbone, transport sans décarboné, avec de l'hydrogène vert, évidemment.
Eh ben, c'est un beau projet, et puis c'est une bonne transition pour la dernière partie. Juste après une petite pause musicale, on va parler des pistes de solutions qu'on peut avoir sur les questions de transport.
Sur la route, camion ça fait pout pout pout.
C'était Camion ça fait prout de Henri Dess. Vous écoutez une heure avant la fin du monde et nous entamons notre dernière partie sur les transports. Il nous reste 10 minutes. Donc comme le dit la chanson qu'on vient d'écouter, d'ailleurs qui date de quand, Florent, t'as une idée ou...
Je n'ai pas la moindre idée, si ce n'est que je la passe régulièrement à ma petite fille et qu'elle adore.
Eh bien c'est de 1986, c'est-à-dire il y a 33 ans, ça ne nous rajeunit pas. Donc comme le dit la chanson, camion ça fait prout, c'est-à-dire que le routier en fait est le moyen de transport qui pollue le plus en termes de masse. Alors quelle solution ou tout au moins piste de réflexion pour améliorer la situation? Comment diminuer notre impact sur l'environnement au niveau du transport? Déjà, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez Jean-Marc, mais la priorité c'est de moins se déplacer peut-être et de moins faire déplacer les objets?
Ah bah déjà, on va parler de la déplacement des personnes. Je suis un mauvais exemple parce que je suis parti de Béziers avant-hier. J'ai pris un avion, honte sur moi, et je suis allé jusqu'à Liège. De Liège, je fais escale ce soir à Paris. Je prends le train de nuit. Après, j'arrive à Toulouse demain matin. Je vais à Albi pour parler de mon projet hydrogène et je rentre chez moi du côté de Narbonne. Donc voilà, mauvais élève. Mais non, on a pris ces habitudes-là. Là aussi, comment on va s'en sortir, bons occidentaux, bien nantis. On a pris des mauvaises habitudes. Mmh. Comment on va arriver à des mauvaises? On a pris cette habitude-là. Ça va être compliqué. Mais c'est vrai qu'il faut avoir une véritable réflexion. Mais j'ai pas envie non plus qu'on se flagelle. Ça, j'aime pas trop ça, l'écologie flagellante, là. L'autoflagellation, ça me plaît pas trop. Il faut réfléchir. Aujourd'hui, il y a des choses, déjà en termes d'impact sur l'environnement, sur l'atmosphère. Comme je vous le disais tout à l'heure, les moteurs de camions ont fait des énormes progrès. On va avoir bientôt des camions à hydrogène ou à batterie. Encore, il y aura encore des choses qui seront évidemment critiquables. Mais enfin, dans les villes, on aura de moins en moins, et même les contraintes sont drastiques. Dans les villes, maintenant, il y aura les zones à faible émission, etc. Donc, il y a des choses qui vont se faire. Donc, les contraintes, je pense qu'on ne va pas y couper. Les contraintes sont là, elles vont continuer. Donc, j'espère que ça devrait favoriser le fluvial, effectivement. Et à partir du moment où on ne peut plus rentrer dans les villes avec des camions et faire des livraisons à certaines heures, le bateau pourra toujours rentrer à l'intérieur des villes. Donc c'est ces choses qui... Donc il faut déjà effectivement changer de mode, enfin aller vers des modes doux, ça c'est clair. Il faut encourager les modes doux, le ferroviaire et le routier. Et le haut, excusez-moi. Non mais je répète, merci les routiers, vous fâchez pas les gars, on est du même bord. Et le fluvial et le ferroviaire sont des modes absolument à favoriser. Effectivement, il y a une baisse du ferroviaire depuis très longtemps, c'est absolument anormal. Mais parce que ça vient non pas... Le transport, c'est pas compliqué. Une fois que vous avez la marchandise dans le véhicule, que ce soit un camion, un bateau ou un train, c'est pas difficile. Ce qui est compliqué à mettre en place, c'est ce qu'il y a autour. C'est toute la logistique. Et alors la logistique, elle pêche un peu du côté du fluvial. Il faut qu'on l'améliore, qu'on la travaille. Il faut qu'on aille chercher d'autres marchandises, des palettes, autre chose que justement les déblais et les graviers. Mais c'est pas simple. Et on a toujours cette histoire de concurrence. Aujourd'hui, c'est pas cher le camion. Et c'est pas spécialement la faute des entreprises locales, puisqu'il y a ce qu'on appelle le dumping social. Et ça, c'est quelque chose qui est très grave. C'est pas sympa pour personne.
Et du coup, y a la question aussi de pour diminuer la voiture, reporter sur les transports en commun. Il y a l'idée de la gratuité des transports en commun. Il y a aussi le développement du vélo et des modes de transport doux pour tout ce qui est urbain, évidemment. Mais on a parlé, il n'y a pas un maillage forcément partout. Mais du coup, comment faire bouger les choses en fait sur éventuellement la gratuité des transports en commun, mais sur toute cette question-là du report modal entre le routier, les différents modes de transport, etc.
Moi, je pense qu'il y a quand même... C'est un sujet éminemment politique au sens de la politique, de l'organisation de la société. En politique, on oriente les choses dans un sens ou dans un autre. Alors, si on laisse les choses se faire... Quand on laisse les choses se faire en termes de transport, on a un résultat qui n'est ni bon en termes d'environnement, ni bon en termes de sociétal. C'est-à-dire que vous avez le moins cher. Le moins cher, c'est-à-dire le moins bien payé, le gars qui est le moins bien payé, le transport qui pollue le plus, qui génère le plus d'externalités. Donc à un moment, il faut un petit peu, faut mettre un peu le haut là, il faut un peu diriger les choses. Et c'est un petit peu ça qu'on attend un peu et qu'on demande, parce que laisser faire les choses, c'est pas bon en l'occurrence. Parce qu'on aura toujours le moins cher, ça c'est clair. Regardez, on parlait de la livraison de l'e-commerce, c'est pareil. Les gars qui travaillent, c'est pas valorisant. Donc il va falloir contingenter, il va falloir réglementer, il va falloir orienter les choses. Donc il faut les orienter, de faire des choses qui ont un résultat meilleur pour l'environnement, mais aussi pour nous, pour la société, pour nous. Donc c'est quelque chose qu'on attend de nos voeux, justement, c'est qu'il y ait une petite,
de faire changer,
un peu plus de réglementation. Alors je suis pas quelqu'un je suis pas pour la condamnation pour charger les gens, une entreprise, les gens qui travaillent, faut pas leur mettre encore par dessus. Par contre, on peut encourager, favoriser. Il faut mettre des primes ou des bonus aux bonnes pratiques.
Ok, en tout cas, ça y est, on arrive au bout de 7 heures avant la fin du monde. Alors, a-t-on réussi à sauver la planète ? Bon, pas sûr, mais on a émis des pistes de réflexion. Donc maintenant, à nous de faire changer les choses collectivement, individuellement. Donc merci à Jean-Marc Samuel d'être venu. Merci à Florent.
Merci à vous.
Dans quelques minutes, vous pourrez écouter MapMonde. D'ailleurs, chers collègues de MapMonde, de quoi vous allez parler ce soir ?
De la ville de Montréal. On va passer de la musique de Montréal.
D'accord.
Ça va être très bien.
Eh bien, super. Et donc, c'est dans quelques minutes, MapMonde. En tout cas, merci encore Jean-Marc, merci Florent. Peut-être un dernier petit mot pour finir, si vous voulez.
Déjà, je vous remercie bien entendu de m'avoir invité. C'est toujours important et intéressant de parler du fluvial. C'est un milieu qui est passionnant. C'est un mode de transport de vie aussi. Et je sais que le transport fluvial, c'est que les bateaux font beaucoup rêver les gens. Nous, on est un peu les mains dans le cambouis. On sait que ce n'est pas que du rêve, mais on veut bien vous faire partager quand même ce plaisir.
Eh bien, merci beaucoup. On va s'informer plus sur le fluvial. Je vous invite à aller voir sur notre page aussi sur Radio Campus Paris. On se retrouve jeudi 26 décembre pour une émission sur les déchets. Pardon. Merci et à bientôt.